Le podcast Afrique Chine vous est offert en partenariat avec le Africa China Reporting Project de l'Université de Wits à Johannesburg. Le China Africa Reporting encourage des reportages équilibrés et réfléchis sur les relations Chine-Afrique grâce à des programmes de formation innovants organisés tout au long de l'année. Pour plus d'informations, allez sur le site www.africachinareporting.com.
Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Afrique Chine, votre podcast dédié à l'actualité de la présence chinoise en Afrique. Et comme toujours au micro, c'est Christian Géron et Emma pour vous entretenir dans une nouvelle conversation de la Chine en Afrique. Cette semaine, Afrique Chine s'en va au Cameroun à la rencontre de Monsieur Yomsi Bareja, professeur d'université et expert géologue. Avec Monsieur Yomsi Bareja, nous allons échanger sur la question du contrat de Sinosteel et du gouvernement camerounais. En début du mois de mai, la compagnie minière chinoise a signé un accord de partenariat avec le gouvernement camerounais pour l'exploitation du gisement de fer de Kribi-Lobé. La compagnie minière chinoise compte investir 675 millions de dollars sur le projet et entend produire 10 millions de tonnes de fer et 4 millions de tonnes de concentré par an durant les 50 prochaines années. Le gouvernement camerounais, lui, s'attend à près de 38 millions de dollars de revenus par an. Sur le papier, le projet semble intéressant, les chiffres semblent intéressants, mais, la société civile camerounaise et les experts camerounais ne sont pas contents du projet. Ils émettent quelques réserves concernant le contrat. C'est avec M. Yomsi Bareja que nous avons essayé de comprendre les tenants et les aboutissants des contestations autour de ce projet. Quels sont les reproches qu'ils font à ce projet? Quels sont les ajustements qui doivent être apportés à ce projet pour qu'il soit amélioré? Faut-il enlever les Chinois sur le projet et l'attribuer à des Camerounais? Ou faut-il garder les Chinois avec quelques ajustements pour pouvoir l'améliorer? Quelles sont les causes profondes autour des contradictions, autour de l'opposition à ce projet? C'est avec M. Yomsi que nous avons eu cette conversation pour justement essayer de comprendre un peu tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Vous allez le constater, c'était une conversation assez intéressante. Monsieur Yomsi Bareja est un expert qui est très passionné de l'Afrique et très passionné de son pays. Donc, il parle du sujet avec beaucoup de passion, avec beaucoup, beaucoup d'entrain. Je vous prie de suivre cette conversation et n'hésitez pas, comme toujours j'aime le dire, n'hésitez pas à revenir vers nous avec des feedbacks et des commentaires. Sur ce, je vous invite à écouter notre conversation avec Monsieur Yomsi Bareja sur le projet Sinosteel au Cameroun. Monsieur Yomsi Bareja, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Nema.
Comment vous allez?
Je vais bien, et vous?
Très bien, très bien. Je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui, parce que avec votre expertise que j'ai lue il y a quelques jours, je voudrais échanger avec vous sur la question de Sinosteel au Cameroun. Il y a quelques semaines, au début du mois de mai, Sinosteel a signé un gros contrat avec le gouvernement camerounais pour l'exploitation du fer à Kribi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce contrat? Qu'est-ce qui se passe? En bref, les tenants, les aboutissants de cet accord de Sinosteel au Cameroun.
Bon, oui, je vous remercie de m'avoir posé cette question et je vous remercie aussi d'être au parfum de l'actualité, surtout dans le domaine minier. Effectivement, nous avons appris comme vous, hein, par la voix de la presse, de la signature de cette convention minière sur le projet de fer de Lobé au Kribi Cameroun. Ça a été un coup de tonnerre, hein, pour l'establishment camerounais, puisque on n'avait pas vu ça venir. Et pour ce projet, pour mieux comprendre les contours de cette convention, il faut aller dans l'histoire.
Faites même une brève historique de ce projet. Comment on en est arrivé là?
Oui, comment on en est arrivé là? Bon, je ne vais pas dire que je suis dans les secrets de Dieu, que je maîtrise et tout. Okay? Mais je vais essayer juste de donner des grands points. Le Cameroun, c'est un pays comme tous les autres. Le Cameroun, au départ, avait certains gisements déjà qui ont été mis en évidence par des colons. Okay? Et parmi lesquels, certains gisements de fer. Et Lobé fait partie des gisements découverts à l'époque coloniale. Sauf que, vous voyez, la technologie avance assez vite. Il y a des projets aujourd'hui qu'on met en opération qu'on ne pouvait jamais penser il y a 50 ans que ça pouvait se faire. Mais juste parce que la technologie avançait et maintenant, les choses deviennent beaucoup de plus en plus faciles. Donc, il y a eu un moment dans le monde où il y avait le boom minier, si vous vous rappelez bien le boom minier, où des gars sortaient, ils allaient par-ci, par-là chercher des projets. Ok,
tout
c'est comme
fait,
ça que
tout à fait, oui.
Même au Congo, même en RDC, il y a eu ça. Ou même les locaux s'y intéressaient, prenaient des petits milliers pour aller un peu spéculer dessus. Au Cameroun, il y a eu ce vent-là, où des locaux, des Camerounais, à travers leurs relations, prenaient des titres miniers. Ok, pas parce qu'ils voulaient vraiment développer de ces projets, mais parce qu'ils voulaient compter aller sur des places boursières ou vers des institutions financières, lever de l'argent. Et après, bon, on le sait. Moi, je vous enseigne rien. Ok, donc c'est comme ça que ce projet est passé de main en main,
okay, oui,
pour chuter entre les mains des Chinois. Bon, en 2008, quand ça chute entre les mains des Chinois, des Sinostines, l'État camerounais, bon, je ne peux pas te dire exactement comment ça a chuté entre les mains des Sinostines, parce que j'ai eu l'impression qu'il doit avoir eu un deal entre la dernière compagnie détentrice de ce titre minier et Sinostines. Il y a peut-être transfert de titres miniers. Donc, quand il y a un deal entre deux compagnies et qu'ils ont scellé leur deal, Tout ce que le gouvernement fait, c'est d'entériner le deal et de délivrer un nouveau titre minier au nouvel acquéreur. Je pense, hein, je pense que c'est comme ça que ça se passait. Donc, c'est comme ça qu'en 2008, Sinostil obtient le permis d'exploration sur le permis d'exploration sur le gisement de fer de Lobé, parce que c'est déjà un gisement. OK? Donc, et à l'époque, on précise bien, l'État camerounais précise bien, votre seule mission, c'est de confirmer les réserves. C'est écrit. C'est pas moi qui l'invente. OK? Sinostil n'a pas pris un permis de recherche pour chercher du fer. OK? On ne cherche pas ce qu'il a trouvé. Il continue. Ce fer de 33% est assez, a un teneur assez faible pour le marché. Ça ne peut pas être, on peut pas vendre ça comme ça.
Oui.
Il faudra l'enrichir. Et nous pouvons l'enrichir jusqu'à 65%. Mm-hmm. La teneur qui est acceptable sur le marché. OK?
Fine. Oui.
Donc, après enrichissement, à 65%, peut-être, on se retrouve à 300 millions de tonnes à 10, à 65%. OK? Donc, et ils disent, nous comptons faire une production annuelle de 10 millions de tonnes. 10 millions de tonnes, c'est la production des 33%. OK?
Tout à fait.
Et sur les 10 millions de tonnes, si on enrichit, on va se retrouver à 6 millions de tonnes. OK? Donc, c'est leur production annuelle. OK? Ils disent aussi que, bon, compte tenu que sur le fer, il faut des infrastructures autour de la mine. Les infrastructures sont classiques. Comment on la chemine? Où est-ce qu'on prend de l'énergie? Et est-ce qu'il y a un terminal portuaire pour charger dans les tanks? Donc, il propose de construire un pipeline de 7 km à partir du site jusqu'à la côte portuaire de Kribi. Il propose de construire une centrale hydroélectrique pour l'approvisionnement de la mine en énergie. Et voilà. Et il propose de faire, de construire la mine. Et aussi, je pense, avoir un terminal minéralier.
On va arriver dans les détails du projet. Revenons un peu plus tôt sur les conditions, pas les conditions dans lesquelles le contrat a été signé, mais les critiques que vous émettez vis-à-vis de ce projet par rapport à Sinostil. J'ai lu que vous aviez émis quelques critiques, il n'y a pas que vous. Il y a aussi les députés de l'opposition au Cameroun qui ont parlé carrément de bradage des titres miniers camerounais. Quelle est la lecture que vous faites en tant qu'expert dans le domaine, en tant que connaisseur du domaine minier camerounais? Quelle est la lecture que vous faites de cet accord?
Ok, la lecture. Quand j'ai vu la convention, quand j'ai vu et pourquoi je me suis levé pour parler de ce projet? Je l'ai fait parce que ce projet, je le connais, Monsieur Nema.
Oui.
Ce projet, je le connais. J'ai travaillé pour la compagnie Vale, la première détentrice, la première compagnie productrice du fer au monde. Vale, c'est une compagnie brésilienne.
Mm-hmm.
OK? J'ai eu à évaluer 5 projets de fer au Cameroun, parmi lesquels ce projet. Donc, quand je lis les Chinois dire qu'ils ont sur 650 millions de tonnes à 33%, et il s'arrête là, je dis non, c'est faux.
Mm-hmm.
Je dis non, c'est faux. Parce que je connais que ce projet, en dehors de la Rochesaine, parce que les 33%, c'est la Rochesaine, il parle de la Rochesaine. En dehors de ça, il y a de la roche qui s'est transformée en hématite. C'est cette partie.
Oui. Monsieur, nos auditeurs ne sont pas des experts miniers, donc essayez un peu de garder ça un peu plus simple pour qu'ils comprennent, de façon assez simple pour qu'ils comprennent réellement de quoi il s'agit pour leur permettre de suivre avec nous.
Je voulais arriver là, c'est pour ça que j'ai dit de l'hématite. Donc, c'est cette partie qui apparaît du gisement. Vous savez, monsieur Nema, un gisement de fer, c'est pas caché, hein? C'est pas caché, c'est une montagne. Est-ce que vous me comprenez? C'est une montagne, c'est la montagne.
Oui, oui.
C'est ça. C'est ça. Donc, vous voyez une montagne qui apparaît en surface. Essayez un peu d'imaginer cette montagne-là aussi en dessous. Vous voyez ça?
Oui, oui, tout à fait.
Prenez par exemple, prenez une boule, une sphère, ok?
Mm-hmm.
La moitié de cette sphère est enfouie et l'autre moitié est exposée.
Tout à fait.
Vous me comprenez?
Mm-hmm.
La moitié qui est enfouie, c'est ce qu'on appelle la roche saine. Parce que c'est une roche qui n'est pas exposée aux intempéries, aux multiples dégradations. Et celle qui est en surface, c'est celle-là qui est exposée aux multiples dégradations. C'est ça qu'on appelle aux multiples altérations. Et c'est cette roche-là qui se transforme en hématite parce qu'elle a subi un enrichissement naturel. Il a plu dessus, il y a eu du vent, il y a eu ceci. Vous comprenez? Ça s'est altéré. Et quand ça s'est altéré, tous ces contaminants sont partis et il reste ce qu'on appelle l'hématite. L'hématite, c'est de la magnétite. Quand vous prenez l'élément, vous mettez dessus, ça coule.
Oui.
Vous comprenez?
Oui.
Voilà. Donc, et ce fer que j'appelle hématite, ce fer qui est exposé, que tout le monde voit à cette montagne-là, c'est du fer déjà enrichi à 65%. OK?
Mm-hmm.
Et c'est ce qu'on appelle en anglais du DSO, du Direct Shipping Ore. Monsieur Nema, cette partie a disparu.
Donc, si je comprends bien, vous contestez les réserves et les réserves et les chiffres donnés par Sinosteel.
Je conteste fermement les réserves qui ont été données par Sinosteel. Sinosteel a caché les hématites que j'estime à 40 millions de tonnes. Ça fait 4 années de production qu'ils ont délibérément caché. Le deuxième volet de ma critique, c'est que ce gisement est polymétallique. Dans la région, vous savez, le Cameroun, le Congo, Brazzaville et le Gabon, bien qu'aujourd'hui ça forme 3 États, mais sur le plan géologique, on ne connaît pas les États. OK?
Mm-hmm.
Ce sont des pays qui appartiennent à un même contexte géologique, tectonique même. Vous comprenez? Ça veut dire que le fer que j'ai chez moi au Cameroun n'est pas différent du fer qu'il y a au Gabon. Ce sont des fers qui sont nés des mêmes transformations géotectoniques. Vous comprenez, non?
Tout à fait, oui.
Voilà. Donc, je ne peux pas comprendre. Moi, j'ai travaillé au Gabon, sur Belinga. J'ai évalué Nabeba au Congo-Brazzaville. J'ai évalué le fer de Mbalam au Cameroun. Vous comprenez? Ces faits sont identiques. Et ces gisements sont accompagnés autour des minerais satellites, que ce soit l'or, du cuivre et autres métaux de base. Le fer est toujours associé. Le fer vient toujours associé. Regardez même le cas du Brésil, au Carajás. Dans les mines du Carajás, il y a toujours des gisements de fer à côté. Même pas loin. Des gisements d'eau à côté. Donc, je comprends que les Chinois ont pris un permis sur la confirmation des réserves du fer, mais pendant les sondages, ils ont intercepté. Je vous dis bien, ils ont intercepté des filons de quartz qui sont porteuses de la minéralisation d'or et des autres métaux de base. Pourquoi, dans leur rapport, ils ne mentionnent, ils ne font pas état de cette découverte? Pourquoi, monsieur Nema? Pourquoi? Parce qu'après, quand ils vont prendre ces roches, ils vont les concasser. Ils vont faire quoi de l'or qui sortira de ça? Ils vont faire quoi du cuivre? Je pense, ils peuvent avoir du cuivre, ils peuvent avoir de l'or, ils peuvent avoir tout ce qu'ils peuvent avoir. Pourquoi ils n'ont pas déclaré? Quand vous prenez des carottes, des sondages vous envoient au laboratoire et on vous envoie les analyses, les résultats d'analyse, et vous constatez qu'il y a une teneur en fer, une teneur en or élevée. Pourquoi vous cachez? Dites-moi, monsieur Nema.
Mm-hmm.
Dites-moi. Donc, d'abord, sur la partie gisement, il y a 2 problèmes. Les réserves et les minerais connexes qui viennent avec ce gisement. Ça peut être des gisements satellites, ça peut être des poches, mais on déclare tout. Oui. On ne cache rien. Et pour confirmer ce que je vous dis, j'ai eu à parler avec des employés qui ont travaillé à l'époque avec des Chinois. Est-ce que vous savez, M. Nema, que les Chinois travaillent plus dans la nuit qu'en journée? Vous le savez? Et que dans la nuit, quand les Chinois faisaient des sondages, ils demandaient aux Camerounais d'aller dans leur dortoir. Vous le savez? Est-ce que vous trouvez ça normal? Pourquoi chasser, en principe, c'est qu'ils chassaient les rocos, allaient dormir et restaient travailler jusqu'au matin. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Seuls. Il n'y avait que des Chinois dans la nuit qui travaillaient. Pourquoi?
Si l'on comprend bien, le gouvernement camerounais n'avait pas participé aux travaux de confirmation des réserves, des gisements qu'elle avait donnés à Sinosteel. Est-ce que après que Sinosteel ait publié ses résultats, est-ce que le gouvernement camerounais a-t-il envoyé un cabinet d'études internationales pour confirmer effectivement les résultats qui avaient été donnés par Sinosteel?
Non, mais je pense pas, il n'y a pas eu une contre-expertise. Et généralement, on fait confiance aux partenaires. Vous comprenez? Moi, j'ai fait le Congo, j'ai négocié 30 contrats au Congo avec les différentes compagnies. Et au Gabon, la même chose, en Éthiopie, la même chose. Généralement, il y a le code mis clair. OK? Donc, c'est sur la bonne foi. OK, monsieur Nema? On vous dit, nous vous délivrons un permis. Vous devez faire, c'est vous-même qui dites, je veux ce permis. Et voilà mon programme de travail. Et voilà le budget qui va avec. Vous comprenez?
Oui.
Et le gouvernement, sur cette base-là, vous délivre un permis. Bon, maintenant, le gouvernement, après avoir délivré un permis, doit jouer ce rôle de monitoring. Doit s'assurer que vous êtes en train, effectivement, de faire les travaux que vous avez déclarés et que vous êtes en train de dépenser l'argent que vous avez promis de dépenser. Bon, généralement, dans nos pays, on néglige ce qu'on néglige. Je peux dire que c'est une négligence. OK? Oui. C'est une négligence. Nous ne sommes pas regardants. Et c'est pour ça que les compagnies minières, ils comprennent ça. Et c'est là où ils nous damnent le pion. OK? On finit par ne pas dépenser ce qu'on a promis. On finit par ne pas faire les travaux qu'on a promis. On finit par ne pas remettre des rapports, des travaux au ministère. Et personne n'écrit pour dire que, mais monsieur, ça fait une année que vous êtes là. On attend vos rapports. Vous voyez? Donc, ça devient un champ, la cour du roi plutôt, où chacun fait ce qu'il veut. Normalement, l'État ne doit pas envoyer des gens sur site travailler avec les Chinois. Les Chinois recrutent leur personnel. L'État joue son rôle du contrôle. S'assure que les travaux sont effectués, s'assure que les échantillons qui sortent du pays ont été inspectés par les agents du ministère et validés pour que ça sorte du pays. Parce que imaginez-vous, monsieur Neyman, si un opérateur vient travailler dans vos pays et peut sortir avec des échantillons comme il veut, c'est un danger. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un danger. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé, que peut-être il y a eu une négligence, peut-être nos techniciens du ministère n'ont pas pris la peine chaque fois de suivre pas seulement les Chinois, ils sont là tous, il y a des Français, il y a Eramet qui est là, il y a des Canadiens qui sont là, il y a des Britanniques qui sont là aussi. Donc, faire le travail, ça veut dire s'assurer vraiment que les opérateurs qui sont là pour faire de la recherche font vraiment cette recherche, déposent leur rapport et vous consultez les rapports. Moi, au Gabon, monsieur Nema, j'avais des licences. Chaque fois, ma compagnie était convoquée au ministère pour présenter les travaux annuels. Des activités de ma compagnie. Qu'est-ce que vous avez fait? Quels sont les résultats? Combien vous avez dépensé? Est-ce que ça cadre avec ce que vous avez promis quand vous obtenez le permis de recherche ou d'exploration?
Est-ce que vous pensez que la compagnie chinoise ne s'est pas pliée aux normes de gouvernance du secteur minier au Cameroun?
Écoutez, moi, je suis dans le secteur minier, ça fait 15 à 16 ans. Et j'ai commencé au Gabon, après j'ai chuté au Congo. Ensuite, je me suis baladé un peu en Afrique. J'ai eu un constat et des plaintes qui allaient dans ce sens. Les Chinois, quand ils arrivent dans nos pays, ils font ce qu'ils veulent. Ils marchent sur nos lois. Pour eux, l'Afrique, c'est un no man land. Vous comprenez ce que veut dire no man land?
Oui, je vous suis.
Ils vont dans... J'étais sidéré un jour, monsieur Nema, au Gabon. Nous étions en train de faire une visite de terrain avec des agents du ministère des Mines. Je vous assure que nous sommes tombés sur une carrière de gravier opérée par les Chinois qui n'était pas reconnue. Les agents du ministère ne reconnaissaient pas ça.
La vérité est qu'effectivement, lorsqu'on parle du secteur minier, même pas minier, mais des ressources naturelles en Afrique, là où on constate qu'effectivement, il y a beaucoup d'implications chinoises dans ce secteur-là dans plusieurs coins qui sont assez illégales. On a vu la même chose sur le bois en Afrique centrale, au Congo, au Gabon, en Centrafrique, au Cameroun, en RDC. En RDC, d'ailleurs, on voit la même chose avec l'exploitation de l'or dans l'est de la RDC. C'est une plainte que l'on reçoit beaucoup de la part de la société civile et des centres de recherche qui analysent le travail sur le terrain et qui constatent qu'effectivement, il y a une présence massive illégale des exploitants chinois dans le secteur des ressources naturelles en Afrique. Dans le cas du projet Sinosteel au Cameroun, ma question, je la repose. De votre observation, la défaillance est venue de l'État camerounais, du côté chinois, ou bien c'est une combinaison des deux facteurs? Des investisseurs chinois qui sont venus trouver un environnement de gouvernance qui pouvait facilement soit corrompre, soit dont ils pouvaient profiter de la faiblesse pour pouvoir tirer avantage.
Monsieur Nema, pensez-vous que les Chinois doivent se retrouver dans la forêt tropicale du Gabon sans l'aval de quelqu'un? Nous sommes complices. Et les Chinois font comment pas arriver de chez nous? Et ça, ils passent par nos frontières. Donc, nous, si les Chinois sont dans l'illégalité, ça veut dire que nous leur avons accordé Ça, ils ont ce qu'on appelle une couverture. Je ne sais pas quelle couverture. Oui. Parce que quand vous arrivez sur le site, les Chinois ne vous font jamais rentrer dans le périmètre. Hein. Est-ce que vous savez ça? C'est difficile. C'est difficile. Et je pense que même dans le cas de l'OB, je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu des négligences, il y a eu des défaillances. Il fallait suivre si les Chinois font réellement leur travail. Monsieur Nema, dans un projet sur un site minier, on demande que quand vous prélevez des échantillons, vous devez toujours laisser des échantillons témoins. OK? Mais il n'y a pas d'échantillons témoins par rapport aux travaux que les Chinois ont effectués au Cameroun. Quand vous faites des sondages, vous devez avoir sur le site ce qu'on appelle un hangar où vous stockez vos carottes pour que quand il y a contrôle inopiné, qu'on ait accès aux carottes. Allez-y, voir si sur ce site-là, il y a un hangar avec des carottes. C'est une combinaison des deux, des partenaires et...
De la défaillance.
Oui, je pense.
Il y a eu un député de l'opposition qui a fait ce commentaire que je vais lire. Il dit, sur le plan financier, il s'agit d'un crime économique, une véritable incitation à la révolte, un tour de passe-passe mafieux, l'entreprise Sinosteel qui prévoit d'extraire 10 millions de tonnes de fer par an, investira 420 milliards de francs CFA au Cameroun dans le cadre de ce projet minier. Et ensuite, la question avait été posée au ministre camerounais des Mines qui répond que les commentaires qui ont été faits, des commentaires assez surfaits. Je lis sa réponse ici, il dit « Il n'est pas possible, ces simulations qui ont été faites, qu'elles ne tiennent pas compte des dépenses effectuées pendant la phase de recherche, qu'elles ne tiennent pas compte de charges de tous ordres, que ce soit de l'exploitation, qu'elles ne tiennent pas compte de ces simulations, de tout ce que le Cameroun gagne effectivement. » Dire simplement et de manière tranchée en calcul arithmétique dans une activité minière, ce qu'on peut gagner de manière simpliste serait de très mauvaise foi. Je voudrais appeler les uns et les autres à arrêter cela. De votre observation, est-ce que la réaction du gouvernement camerounais est-elle de nature à pouvoir rassurer la société civile camerounaise, les acteurs politiques et même tous les observateurs du secteur minier camerounais par rapport au projet de Sinosteel au Cameroun?
Bon, Monsieur Nema, quand je suis la réponse du ministre, je me dis bon, le ministre, hein, c'est un personnage assez politique. Ça veut dire qu'il n'est pas toujours, c'est pas un expert dans le domaine, ok. Mais j'ai l'impression que ses conseillers techniques vraiment doivent encore rentrer à l'école, ok. Ils doivent rentrer à l'école parce qu'ils sont en train de dérouter notre ministre complètement. Parce que un projet comme celui de l'OB. Quand les Chinois viennent déposer leur étude de faisabilité, nos experts du ministère des Mines doivent eux-mêmes monter, faire un montage, faire un modèle financier du projet. Vous comprenez, monsieur Nima? En anglais, on appelle ça du DCF, du Discount Cash Flow Model. Donc, si vous faites ce tableau-là, il n'y a plus de discussion. Vous avez tout intégré. Vous voyez, c'est là devant toi. C'est quoi le tableau de bord d'un projet minier? Est-ce que les Camerounais ont ça? Les Camerounais n'ont pas eu ça. Je vous dis la vérité. Donc, les gars sont en train de parler des chiffres, de spéculer, mais ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Ils ne comprennent pas. Moi, j'ai travaillé dans Vale. Le coût de production d'une tonne de fer était de 20 dollars, monsieur Nema, pour une grande boîte comme Vale. 20 dollars. Aujourd'hui, le fer est à 140 dollars la tonne. Pourquoi on vient nous dire que Sinosteel, son coût de production est à 80 dollars? Pourtant, nous savons que les Chinois sont les plus moins chers, ont toujours des coûts d'opération les moins élevés. Vous êtes d'accord avec moi?
Parlons de coûts d'opération. Tout à l'heure, au début, vous parliez de toutes les infrastructures qui doivent être construites autour de ce projet. Nous avons constaté en Guinée, le gouvernement de transition avait demandé aux opérateurs du projet Simandou, dans lequel on retrouve d'ailleurs des Chinois, avait exigé qu'il y ait la transguinéenne qui soit construite pour aller du site de Simandou jusqu'au port vers Conakry. Est-ce que les mêmes exigences ont été placées sur les entreprises, sur Sinosteel dans ce projet de l'OB?
Non, mais il n'y a pas eu d'exigence. Je vous ai parlé des projets, des infrastructures autour du projet. C'est le pipeline de 17 km, c'est la construction d'une centrale pour alimenter la mine, c'est le port minéralier, le terminal minéralier, parce qu'il crédite déjà à est dans une zone profonde. Ça veut dire que les tanks peuvent accoster. Vous comprenez?
Tout à fait, oui.
Et eux-mêmes, ils ont chiffré leur investissement à 475
milliards de CFA. Ça fait 638 millions d'euros. 638 millions de dollars.
Mais ça, ce sont des conneries. C'est petit, ça. Vous comprenez? C'est même pas un investissement. Moi, je suis même curieux qu'on en parle même. Ça c'est zéro. Moi, je pense qu'un homme d'affaires comme moi était en mesure de financer un tel projet. Hein, monsieur Nema, nous sommes incapables.
Vous pensez que le projet a été sous-estimé de la part du gouvernement camerounais, bien de la part de Sinosteel?
Je pense que, comme dit sous-estimé, parce que si vous dites les réserves sous-estimées, je peux répondre.
Je veux dire en coût d'investissement, parce que vous estimez que 638 millions de dollars.
Non. En coût d'investissement, ce sont les Chinois qui annoncent ces chiffres. Hein. Ça veut dire quand vous annoncez que vous avez dépensé 650 millions d'euros et vous sortez la mine, ça veut dire que vous savez de quoi vous parlez. C'est pour ça que déjà, je vous ai dit que les Chinois ont le coût le plus faible. Et ils peuvent bien le faire avec les 650 millions d'euros. OK? Mais maintenant, quand il dit, ben, c'est tout un pays qui est debout pour 650 millions d'euros, est-ce que cet argent, nos opérateurs, nous avons des opérateurs économiques assez forts? Est-ce que ce problème ne peut pas être confié à un opérateur économique du Cameroun? Il va chercher un sous-traitant, peut-être chinois ou indien, pour venir ramasser ce fer et vendre ça sur le marché. Nous sommes incapables. Le fer, c'est le minerai qu'on exploite très facilement. Hein. Est-ce que vous le savez? Très facilement.
Si je comprends bien, le reproche que vous faites au gouvernement camerounais, c'est d'avoir attribué ce projet à une entreprise étrangère et non pas une entreprise camerounaise, c'est ça?
Non, bon, ici, il ne faut pas que vous me traitez peut-être des xénophobes. Je n'ai pas dit
non,
ça.
Non, pas du tout.
Quand un pays a une stratégie de développement d'un secteur précis, hein, a une boussole, ça permet d'orienter les projets. OK? Peut-être nos hommes n'ont pas cette maîtrise de la chose. Vous comprenez? Et peut-être ils sous-estiment même les Camerounais. Vous voyez? Si je ne me levais pas pour parler, on devait pas savoir qu'il y a un Camerounais qui est dans le secteur depuis 15 ans. Vous voyez? Ça veut dire que parfois, peut-être ils l'ont fait, sachant que bon, il n'y a aucun Camerounais qui peut faire ce travail, ou qui peut financer, ou qui peut planifier et développer une mine. OK? Mais aujourd'hui, ils le savent. Bon, demain, ils pourront maintenant mieux réfléchir quand il faut attribuer des projets. Ils vont regarder l'envergure. Est-ce que c'est un projet qu'on peut nous-mêmes faire ou c'est un projet qu'on doit nécessairement appeler des partenaires? Parce que nous avons aujourd'hui au Cameroun la Sonamine. La Sonamine, c'est une compagnie nationale minière, mon cher Nema. Est-ce que la Sonamine n'était pas en mesure de gérer ce projet? Dites-moi. Un petit projet de fer de 10 millions de tonnes par an? Mais la Sonamine pourrait le faire très facilement. Aller lever 600 millions sur les marchés boursiers, on pouvait lever même cet argent en Afrique. Il y a la BAD africaine de développement peut bien financer ce genre de projet. Il y a en Afrique du Sud des institutions financières qui peuvent bien financer ce projet.
Mais quel a été, ça me ramène un peu à la question de départ, quelle a été la procédure d'attribution de ce projet à la Sinosteel?
La procédure d'attribution est celle que je vous ai expliquée au départ. Apparemment, ils ont obtenu, je vous ai dit qu'ils ont obtenu un permis de recherche. Est-ce que ce permis de recherche entérinait un deal qu'il y avait entre la compagnie précédente et Sinosteel? Je ne sais pas. Vous me comprenez, non?
Je vous suis, oui.
Voilà. Bon, moi, je regarde les faits. Ils ont obtenu un permis de recherche pour confirmer, pour confirmer les réserves. Ils l'ont soi-disant fait. Et je vous rappelle que les Chinois, la Chine aujourd'hui, n'est pas en mesure de certifier les réserves. Ils n'ont pas une structure internationalement reconnue qui certifie les réserves. Il n'y a que le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud qui ont des instituts à standard ISO. Donc, leur cachet est reconnu partout. Mais Sinosteel certifie ses réserves chez eux, dans le pays. Le Cameroun travaille dans le système ISO. Comment on peut croire à cela, la certification? Vous voyez? Donc, il y a tout ça. Je vous ai dit, il y a le problème sur les réserves, il y a le problème sur les minéraux connexes, il y a le problème même sur le montage financier dans la convention minière. Voilà les problèmes que nous avons relevés dans ce deal. Et c'est pour ça que nous proposons. On ne dit pas que les Chinois doivent partir. On dit non, on doit encore ramener cette histoire à la case zéro et on fait une contre-expertise. Vous comprenez? Est-ce que faire une contre-expertise sur un projet, c'est être méchant? C'est juste voir clair.
Donc aujourd'hui, pour finir notre émission, votre perspective par rapport au projet de Sinosteel au Cameroun, Que devrait faire le gouvernement camerounais d'un côté? Que devrait faire l'entreprise chinoise de l'autre? Et finalement, que devrait faire la société civile camerounaise et les experts que vous êtes pour pouvoir tirer avantage de ce projet de faire?
Oui, écoutez, je pense que la société civile, les partis politiques, le peuple camerounais, les experts, tout le monde a parlé, chacun donne son point de vue. Et la haute autorité écoute. Ils écoutent vraiment. Ils ont écouté toutes les voix qui sont levées. Bon, c'est à eux de prendre la décision. Vous comprenez? Chacun a fait ses propositions. La haute autorité devra trancher. Donc, la partie chinoise, à partir du moment où il y a cette levée du bouclier, moi, monsieur Nema, j'aurais souhaité que Sinostyle monte au créneau. Si ce sont eux qui ont fait les travaux, si ce sont eux qui ont fait l'étude financière, si ce sont eux qui ont calculé, qui montent le créneau et qui nous fassent une présentation technique, on regarde. Vous comprenez, non, monsieur Nema? Depuis que les Camerounais crient là, est-ce que Sinostyle est passé à la télé? Est-ce que Sinostyle est passé à la radio? Personne, ils sont calmes. Ça signifie quoi? Ils sont calmes. Mais entre-temps, c'est plutôt le Cameroun même qui parle. C'est le ministère qui parle, qui essaie de défendre Sinostyle. Parce que je dis défendre parce que les gars du ministère, les experts du ministère, les experts de la tsunami, ce sont eux qui s'élèvent, qui défendent Sinostyle. Ça ne devrait même pas être le cas. Mais où est Sinostyle? Ils sont où? Pourquoi ils ne viennent pas? Ils sont interpellés. Pourquoi ils ne viennent pas expliquer? Pourquoi ils ne viennent pas dire, écoutez, voilà ce que nous avons fait. Nous avons, en 2009, fait A, B, C, D. Nous avons dépensé X montant. Nous avons envoyé des échantillons en Chine. Les résultats, voilà les résultats. On a fait ceci. On a fait tel nombre de mètres de sondage avec telle grille. 50 sur 50, 20 sur 20, 10 sur 10. On doit comprendre ça. Il doit parler technique pour que nous comprenions. C'est pas les histoires que l'ambassadeur de Chine vient faire des déclarations. Il soutient le... Non. Ils vont soutenir, mais nous voulons qu'on nous montre des résultats. Nous voulons qu'on nous dise exactement quels sont les travaux qui ont été réalisés. Nous voulons qu'on nous dise exactement combien a été dépensé. OK? Qu'on ait même dit que la recherche coûte cher. Non, mais combien a été dépensé? Vous avez dépensé sur quoi? On veut comprendre ça? Nous ne sommes pas. Écoutez, l'Afrique, ça fait 60 ans que nous avons atteint notre indépendance. Ça fait 60 ans que les Africains se forment. Aujourd'hui, les Africains sont assez intelligents. Que ceux qui pensent que l'Afrique, c'est un no man's land, que chacun peut venir en Afrique faire ce qu'il veut, chacun peut venir en Afrique prendre ce qu'il veut. Non, c'est fini. C'est fini. L'Afrique a besoin d'investisseurs, mais ça doit être sur la base de gagnant-gagnant. L'Afrique a besoin d'investisseurs sérieux. L'Afrique n'a pas besoin de gens qui viennent utiliser des moyens obscurs pour obtenir ce qu'ils veulent et partir. Non. Après, l'Afrique reste. C'est nous qui allons développer l'Afrique. C'est nous qui allons développer nos pays. Ce sont nos enfants qui vont rester sans Afrique. Vous comprenez?
Donc, merci beaucoup.
Et c'est ce qu'il faut apprendre aux Chinois. Je l'ai appris aux Chinois au Gabon. C'est mon dernier exemple. Au Gabon, j'ai travaillé avec les Chinois. J'ai signé un contrat de partenariat, de partage, de production avec les Chinois. Ils ont travaillé sur mon site d'or. Ils ont fait exactement ce qu'ils ont fait à Lobé. Ça veut dire que dans la nuit, quand mes employés dormaient, ils allaient laver l'or. Quand j'ai eu cette information, j'ai terminé leur contrat. J'ai terminé leur contrat et j'ai obligé ces partenaires chinois à me revendre le matériel. Ils m'ont revendu le matériel et j'ai mis les Gabonais sur le site. Et ils sont rentrés. Et la direction de l'immigration les a fait rentrer en Chine. C'est comme ça. Quand ils fraudent, il faut les faire rentrer chez eux. C'est pas nécessairement tous les Chinois qui font comme ça. Il y a sûrement des Chinois sérieux. Mais j'ai toujours rencontré des Chinois qui se moquent de notre gueule.
Merci beaucoup, monsieur Yomsi Bareja. Si nos auditeurs veulent suivre vos travaux et vous contacter sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils peuvent vous contacter?
Oui, mais je suis sur le réseau professionnel, LinkedIn, là où vous m'avez contacté. Et je suis enseignant à l'université. J'aide la génération camerounaise. Et je suis aussi enseignant en RDC à Bukavu. Je suis enseignant à l'université officier de Bukavu, à l'école des mines de Bukavu. Et en Afrique du Sud aussi, j'enseigne à l'université Western Cape. Donc, vous voyez que je suis un peu partout en Afrique. Donc, j'aime l'Afrique. Et j'ai mon continent, et voilà.
Merci beaucoup, monsieur Yomsi Bareja. Je vous dis bonne chance, et puis on se dit à la prochaine fois.
À la prochaine, j'ai vraiment aimé d'échanger avec vous, et je souhaite que ce genre de one-to-one se répète, et sur d'autres thématiques. Hein.
C'était là notre conversation avec le professeur Yomsi Bareja, professeur d'université et expert géologue, avec lequel nous avons discuté sur le projet de Sinostyle au Cameroun. Comme je l'ai dit en introduction, La compagnie minière chinoise a signé un contrat de 50 ans avec le gouvernement camerounais pour exploiter le gisement de Lobé-Kribi. Elle entend investir 638 millions de dollars et l'État camerounais, lui, s'attend à recevoir 38 millions de dollars de revenus par an. Il y a eu beaucoup de critiques qui ont été émises. Le gouvernement camerounais a donné sa position. L'opposition et la société civile ont exprimé leurs réserves et parfois même leurs contradictions vis-à-vis de ce projet. Il revient donc au gouvernement camerounais de jouer son rôle, d'apporter beaucoup plus d'éléments qui puissent apporter la lumière autour de ce contrat. On l'a vu sur plusieurs contrats sur le continent. Lorsque le gouvernement n'apporte pas assez d'éléments de clarification, lorsque la gouvernance dans le secteur minier est assez opaque, il y aura toujours des contradictions, il y aura toujours des oppositions qui ne seront pas de nature à créer un environnement sain pour les projets miniers qui sont en place. Il y a beaucoup de suspicions qui, à tort et ou à raison, qui tournent autour des investissements chinois en Afrique. On ne saurait d'ailleurs les balayer d'un revers de main parce qu'on le voit, il y a plusieurs projets sur le continent qui posent sérieusement problème. Et donc, pour ne pas avoir ce genre de problème, il est important, il est capital pour le gouvernement camerounais de jouer la transparence sur ce dossier. Il est très important pour le gouvernement camerounais de jouer son rôle de contrôleur des investissements, de comment ça se passe, de comment le projet est dirigé, pour qu'à la fin, le projet profite non seulement à la compagnie minière chinoise, mais aussi et surtout au Cameroun. Et donc, tout ce que nous pouvons espérer, c'est de voir les autorités camerounaises être attentives aux critiques et aux observations présentées par les experts et la société civile camerounaise. Sur ce, je vous dis au revoir. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation de la Chine en Afrique.
La discussion continue en ligne. Rendez-vous sur facebook.com/AfriqueChine pour partager vos réflexions et réactions sur l'émission. Et sur Twitter, AfriqueChine, Afrique avec un K, pour participer à nos espaces de discussion. Vous pouvez aussi suivre Géraud sur Twitter, sur Christian Géraud, en un seul mot. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre bulletin d'information bi-hebdomadaire en ligne sur l'actualité de la Chine en Afrique en allant sur www.projetafriquechine.com/s'abonner.